Et nous sommes toujours ensemble sur Médien, sur Médien.com et notre application Médien Radio. Je suis ravie, bien évidemment, d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Outman Lorabi. Comme je le disais en début d'émission, ce matin, on fait un zoom sur le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire qui est un véritable fléau de plus en plus proche de nos enfants, surtout depuis la multiplication des réseaux sociaux. Alors, pour en parler, je le disais avec nous, Dr Outman Lorabi. Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous de répondre présent à notre invitation sur Médien. Alors, je rappelle que vous êtes psychiatre à Casablanca. On va d'abord définir peut-être ce qu'est un harcèlement scolaire.
Alors, le harcèlement scolaire, c'est-à-dire qu'il va se manifester donc à l'école ou entre des camarades de classe.
Oui.
Et on désigne par harcèlement un ensemble de comportements, on va dire, qui sont négatifs et qui induisent la souffrance chez des cibles. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont être victimes, pas seulement de violence, parce que très souvent, malheureusement, encore à ce jour, on imagine que le harcèlement, c'est encore les histoires de brutes, comme on dit en anglais, le bully, c'est-à-dire la brute de l'école ou du collège ou du lycée, alors qu'en fait, le harcèlement n'est pas seulement au niveau de la violence physique, ça va aussi être au niveau des grimaces, des brimades, des moqueries, ça va aussi être par des phénomènes d'exclusion, de rejet, notamment dans toutes les activités collectives, etc., où l'enfant ou le jeune va être systématiquement ou au moins de manière répétée mis à l'écart. Vous avez parlé de multiplication des réseaux sociaux, c'est un point très important parce que l'utilisation des réseaux sociaux, quand elle est détournée avec des boucles entre différents utilisateurs qui vont peut-être relayer des images ou des propos qui vont se relayer pour envoyer des messages moqueurs ou des appels, tout ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le harcèlement. Et c'est très important de garder en tête que n'importe qui peut être victime de harcèlement scolaire, ça c'est clair et net, mais il faut aussi garder en tête que malheureusement, par des comportements que je vais dire pas forcément réfléchi et pas forcément responsable, il y a beaucoup de nos enfants qui peuvent se retrouver en situation de harceleur. C'est là aussi le message principal, parce que les moqueries, surtout les moqueries qui sont liées à des attributs physiques, au genre, quand c'est une fille, il existe tout type de moqueries. Ces moqueries peuvent être induites, entre guillemets, et j'insiste sur le entre guillemets, de bonne foi, c'est-à-dire sans l'intention de nuire réellement à la personne, mais les résultats indiquent qu'on est vraiment face à des vrais harcèlements et tout ce que ça comporte comme conséquence sur le plan mental et scolaire.
Alors justement, on reviendra sur les conséquences peut-être un peu plus tard. Docteur Lorabi, quels pourraient être ces signes pour les parents qui nous écoutent, ces signes qui devraient normalement nous alerter?
Alors, à partir du moment où notre enfant, on voit qu'il est réservé, c'est-à-dire qu'il ne fréquente pas beaucoup d'amis différents, que l'enfant est manifestement triste ou qu'il exprime, parce que souvent, les enfants peuvent exprimer « oui, mais on se moque de moi à l'école » et nous, peut-être qu'on va banaliser en disant « oui, mais ça peut arriver, c'est pas grave, on s'est tous moqués » ou des choses comme ça.
Surtout que les enfants entre eux ne sont pas très sympas dans la majorité des cas. Les enfants entre eux, on le sait, docteur, donc on peut prendre ça à la légère et au final, ça peut être beaucoup plus grave.
Absolument. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle de harcèlement, très souvent on va parler de préadolescents ou d'adolescents, et ce sont des âges qui sont relativement critiques dans le sens où dans le processus de développement psychique, il y a le besoin d'appartenir, d'identifier à des pairs comparables, etc. Et donc c'est un âge où on a besoin d'appartenir à des groupes de copains, des groupes de copines, en tout cas ne pas se sentir exclu. Et donc les conséquences ne serait-ce que de l'exclusion. Imaginons une exclusion de la part d'un groupe de camarades, sans qu'il y ait de violence verbale, sans qu'il y ait de violence physique, sans qu'il y ait de moquerie, sans qu'il y ait tout ce dont on a déjà parlé, eh ben, on sait aujourd'hui que ça donne vraiment des conséquences psychologiques assez désastreuses au niveau des enfants, avec une perte de confiance, avec des troubles anxieux qui peuvent s'installer, avec à l'extrême des troubles dépressifs, d'authentiques dépressions avec les idées noires, etc. Et tout le cortège de maladies qui peuvent se surajouter, y compris les problèmes addictifs, etc. Et on en parle souvent chez les jeunes. Donc c'est une problématique qui est extrêmement large en termes de conséquences sur la psychologie des enfants qui en sont victimes. Et ça peut mener quelquefois à des drames.
D'accord. Alors justement, quand devrait-on en parler à ces enfants d'abord ? Est-ce qu'il faut en parler à ces enfants ? Et comment choisir le bon moment ?
Alors, le bon moment, il s'impose dès le début, dès que les enfants sont en situation scolaire, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école, qu'ils posent des questions sur leurs camarades, que celui-là, il est différent, que des petites choses comme ça, c'est-à-dire on est en train de parler d'enfants presque à l'âge préscolaire, on commence déjà à les sensibiliser au fait qu'il y a des différences, qu'on doit respecter les différences, qu'on se moque pas parce que quelqu'un est grand ou petit, ou qu'il a telle ou telle couleur de peau, telle ou telle couleur de cheveux, ou telle texture de cheveux. Ça commence comme ça, mais j'ai envie de vous dire, ça fait partie des préceptes du vivre ensemble.
C'est ça.
Et donc, par rapport à nos enfants, bien sûr, alors la chose la plus importante, c'est qu'il faut toujours être à l'écoute, des instances de l'école, parce que le plus souvent, ce sont eux qui vont attirer notre attention, ne serait-ce que il y a les enseignants qui peuvent éventuellement nous convoquer en tant que parents pour parler de difficultés ou du fait que notre enfant ne participe plus en classe, ou peut-être que on a remarqué qu'il y avait des brimades, des choses comme ça. Et donc, il faut pas prendre la chose à la légère à ce moment-là. Il faut jamais banaliser ce genre de situation. Alors, très souvent, malheureusement, les enfants sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes quand ils sont en situation de souffrance, notamment par rapport à des brimades qui ont duré trop longtemps. Donc, quelquefois, même en tant que parent, en étant tout à fait disponible et apte à écouter, on ne va pas avoir forcément ce qui fait mal à nos enfants. Quelquefois, il faut recourir à des spécialistes, des pédopsychologues ou des pédopsychiatres, quand on est face à un doute, face à un questionnement, ou quand on voit que notre enfant souffre, que cela soit au niveau de son appétit, de son sommeil, de ses résultats scolaires, de sa jovialité, de très souvent aussi, il y a des petits symptômes un peu, je dirais, qui sont trompeurs, parce que avec le harcèlement, il peut s'installer une véritable phobie scolaire, et ce qu'on entend par phobie scolaire, c'est une peur exagérée d'aller à l'école ou de participer à toute activité qui soit liée à l'école. Et malheureusement, cette phobie, le plus souvent, chez notamment les enfants, elle peut se manifester par des douleurs abdominales qui peuvent nous laisser errer en termes de diagnostic entre les différents spécialistes. Donc, il faut être à l'écoute de son enfant. Il faut quelquefois, on peut avoir, nous en tant que parents, l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, même si notre enfant nous dit non, ça ne va pas trop mal, oui, ça va bien. Il faut savoir qu'il y a des situations à risque, notamment quand des enfants arrivent dans de nouvelles écoles ou intègrent de nouveaux groupes d'enfants. C'est là où ils peuvent éventuellement être plus à risque d'être victimes de harcèlement. Je dirais l'idée principale, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute, être vigilant, être disponible pour l'école, pour les enseignants et pour le personnel éducatif de manière générale à l'école. Et il faut essayer de recouvrir toutes les infos qui viennent des différentes sources, parce que quelquefois ça peut être les amis de nos enfants qui nous alertent, etc. Donc sans tomber dans une espèce de psychose où on se dit que notre enfant est forcément victime de brimade, mais il faut toujours garder en tête cette éventualité. Et comme je le disais un peu avant, il faut aussi garder en tête que notre enfant puisse être un harceleur, quoi.
Effectivement, et c'est très important de le rappeler. Alors, on ne peut pas, eh bien, ne pas parler des conséquences, justement, pour alerter ces parents qui nous écoutent. Quelles peuvent en être les conséquences les plus graves, docteur Lauravie? Je rappelle que vous êtes psychiatre.
On peut parler de dépression. Alors, la dépression chez les préadolescents, chez les adolescents, ça existe. C'est absolument pas rare. Et malheureusement, quelquefois, on se trompe de diagnostic parce que les symptômes classiques chez l'adulte, quand on parle de dépression, bien sûr, on parle de tristesse. Alors que chez justement les adolescents, par exemple, on peut, au lieu d'observer une tristesse, observer juste une hostilité extrême, c'est-à-dire un enfant qui devient tout le temps énervé, tout le temps, je dirais, susceptible, à la limite de l'agressivité. Il y a d'autres symptômes, hein. Enfin, c'est-à-dire quand on voit que la trajectoire de notre enfant, il y a eu une cassure, que ce soit en termes de résultats scolaires, en termes de pratiques d'activités extrascolaires, en termes de fréquentation sociale, les amis, etc. Enfin, quand on voit qu'il y a une fracture au niveau des habitudes, là, on peut effectivement craindre une dépression qui s'installe avec ce que ça peut comporté comme élément péjoratif, hein, c'est-à-dire en termes d'échec scolaire, en termes bien sûr de souffrance psychologique, est-ce que ça peut induire comme idée suicidaire, je le citais tout à l'heure, en termes de potentiel de troubles addictifs, hein, c'est-à-dire que l'enfant, face à sa souffrance, qui se retrouve à consommer des choses. Donc, toutes ces situations doivent bien sûr nous alerter concernant la prise en charge sur le plan psychologique de notre enfant, ça c'est clair et net, mais il faut toujours se poser la question de si ça n'a pas été déclenché, au minimum favorisé, par un harcèlement qui dure depuis plusieurs mois et quelquefois plusieurs années.
Parfait. Alors, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, justement, mais très vite, docteur Lorabi, on parle de cyberharcèlement donc chez les enfants. Comment est-ce qu'on peut les protéger de cela?
Moi, j'ai un avis un peu tranché là-dessus. Les enfants, moi, je pense que d'abord, il faut les éduquer à utiliser les réseaux sociaux. C'est très important.
Oui.
Les réseaux sociaux, c'est fait. Alors, la majorité du temps, on demande, dans les conditions générales d'utilisation, à ce que la personne soit un adulte majeur, etc. OK, mais en réalité, très souvent, des mineurs créent des comptes et puis partagent du contenu. Et très souvent, bon, ce qui est plutôt conseillé, c'est qu'on va commencer à accompagner nos enfants sur les réseaux sociaux à partir de l'âge de 12 ans et on va leur expliquer. C'est très important de déjà bien les éduquer sur la notion d'absence de vie privée, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et sur le fait que de droit à l'image, ce sont des notions qui sont encore peu discutées de la part de nous, parents, et que le simple fait, par exemple, de prendre une photo de quelqu'un et de peut-être la modifier ou de faire deux, trois petits trucs qui la rendent rigolote, eh ben, c'est quelque chose qui peut être répréhensible et c'est quelque chose qui peut surtout induire de la souffrance chez la personne concernée et donc il y ait cette prise de conscience de la part de nos enfants. Donc, pour répondre le plus clairement possible à votre question, il faut apprendre à nos enfants l'utilisation rationnelle et raisonnable des réseaux sociaux.
Alors, dernière question, docteur Athmane Lorabi, je rappelle que vous êtes psychiatre. Une question d'une auditrice. Alors, mon enfant est un harceleur. Que faire?
Alors, ça, c'est assez important de rapidement avoir une grosse discussion, c'est-à-dire on va d'abord essayer de travailler l'empathie de notre enfant, c'est-à-dire de sa capacité à se mettre à la place de l'enfant qui est victime de ces injures ou de ces violences ou de ces moqueries, etc. Et puis essayer de pas cristalliser, c'est-à-dire cette on va dire, ça dépend bien sûr de la gravité des choses qui ont été faites, mais de pas cristalliser cette opposition entre guillemets qu'il y a entre mon enfant ou l'enfant de cette dame et sa victime, mais plutôt de réengager un processus d'expression de soi et de discussion et de formuler le pardon et d'accompagner notre enfant dans cette formulation du pardon qui ne la vive pas comme une honte ou comme comme une punition où c'est juste, voilà, il faut montrer patte blanche et après c'est réglé. C'est très important, ça aussi, ça fait partie de notre rôle éducatif, c'est très important d'apprendre à nos enfants de faire preuve d'empathie, hein, de leur expliquer les choses, de parler en termes d'émotion et de vécu émotionnel des choses.
Surtout quand on sait que les moqueries de l'enfance peuvent être à l'origine d'un grand manque de confiance en soi et qui perdure étant adulte.
Oui, absolument, absolument.
Merci beaucoup, docteur Atman Lorabi. Je rappelle que vous êtes psychiatre à Casablanca. Un grand merci à vous d'avoir répondu présent une nouvelle fois à notre invitation sur Médias. Je vous dis à très bientôt.
À très bientôt.